Good Morning Business, le grand débat.
Il est 8h38 et je peux vous dire que le débat a déjà commencé depuis 3 minutes sur des sujets brûlants. On va vous parler de l'immigration. Faut-il régulariser les clandestins dans les restaurants? On est avec Jean-Philippe Cartier, président de H8 Invest, qui a quelques participations dans quelques restaurants, on peut en parler. Je... Emmanuel Le Chypre, éditorialiste BFM Business. Et Éric Delannoy, président fondateur de Tenzing Conseil. On parlera aussi des moutons et des vaches tout à l'heure. Mais pour l'instant, on va parler donc de l'absence dans le décret de métier de la restauration, dans le décret qui prévoit, et la loi immigration qui le prévoit, la régularisation des clandestins dans des secteurs en tension. Tension de main-d'œuvre. Et les restaurants ne sont pas dans la liste. Comment ça se fait, Jean-Philippe Cartier?
Bonjour à tous. Je pense que Thierry Marx a mis les pieds dans le plat.
C'est ça.
Et qu'à le dire. Je pense qu'il a parfaitement raison. Et on le disait tout à l'heure, je pense que si on enlevait tous les gentils émigrés qui travaillent dans nos restaurants parisiens, il n'y en aurait plus beaucoup d'ouverts, ne serait-ce qu'à midi. Donc je pense que c'est une évidence.
Mais donc vous êtes contraint d'embaucher des clandestins?
On est contraint. Je ne sais pas si chez nous, on a beaucoup de clandestins chez nous. Pour autant, toutes les grosses affaires de restauration et les plus petites, on sait très bien que c'est un métier en tension. Plus de 200 000 emplois qui sont recherchés dans le métier. Ça serait se mentir que de te dire que tu n'as pas de ce type de profil qui travaille dans un grand nombre de restaurants. Et je pense que régulariser ces gens qui travaillent, qui font partie du tissu économique français dont nous avons besoin, il ne faut pas les confondre avec les problèmes sécuritaires de nos pays. Et ça me paraît une évidence. On a eu le sujet dans un certain nombre d'hôtels avec des Mauriciens et des tas de gens. Ouais. À chaque fois, c'est un enfer sur terre, alors que c'est des gens qui veulent travailler, qui contribuent à l'effort national, et c'est une évidence. Et Thierry Marx a parfaitement raison d'avoir mis ce point sur la table à peine élu.
Quand nous, on a vu que Thierry Marx mettait le dossier sur la table, en fait, on s'est dit, mais il s'est trompé. C'est évident que l'hôtellerie et la restauration est dans ce décret. Comment c'est possible de ne pas avoir mis un secteur qui a de telles tensions, Emmanuel Le Chypre?
Ah bah c'est pas moi qui ai fait le projet, donc je peux pas vous dire. Ce qui est sûr, c'est que effectivement, plus globalement, de toute façon, il faudra bien qu'un jour ou l'autre, on recourt beaucoup plus massivement qu'on ne le fait aujourd'hui à de la main d'œuvre venant de l'étranger, qu'on la régularise beaucoup plus facilement. Regardez, parce qu'il y a une liste hein, qui est très précise sur quels sont les secteurs en tension. Cette liste, elle n'avait pas été révisée depuis des années et des années. Donc oui, effectivement, moi je pense que
elle est par région. Par exemple, il y a des régions où il y a maître d'hôtel, pas d'autres. Elle est assez précise et c'est vraiment la région qui détermine.
Oui, mais c'est encore une fois, vous savez, c'est des trucs à la française avec des normes, des trucs. Alors si vous êtes au-dessus de tel seuil, patati patata, si vous êtes entre tel seuil et tel seuil, patati patata, bon voilà, c'est quelque chose qu'il faudrait laisser faire beaucoup plus naturellement, surtout encore une fois, il faut savoir ce qu'on veut. Si vous voulez encourager, et c'est aussi les injonctions contradictoires, si vous voulez encourager notamment tout ce qui est made in France, rayonnement de la France, etc., vous ne pouvez pas avoir des décisions qui les unes avec alignées avec les autres ne font que favoriser la malbouffe, la street food. Je dis pas que les, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que les petites structures, quand vous favorisez tout ce qui est vente à emporter ultra rapide,
moins de salariés,
etc., vous avez moins de salariés. Prenez les aides à l'énergie, c'est la même chose. Ah oui. Il y a, en gros, le restaurateur qui essaie de faire une restauration de qualité avec le salarié qu'il faut dans le local qu'il faut. Aujourd'hui,
il a plus de 10 salariés,
il est quand même abandonné. À son sort.
C'est ça, hein,
c'est certainement ça, mais c'est surtout que là, je peux vous dire qu'on réouvre notre actif à Chamonix, qui est un hôtel 5 étoiles. On a le même sujet en Normandie. Dans toutes les régions actuellement, c'est sous tension partout. Alors, on parle de crise énergétique, de crise dans tous les sens. L'hôtellerie fonctionne bien. À Paris, on est 100% complet absolument partout dans l'hôtellerie et nous souffrons toujours autant de problématiques de recrutement. Voilà. D'où la nécessité de nous permettre de faire travailler les gens qui, à minima, ont envie de travailler.
Il faut juste bien préciser, français. Et il faut juste bien préciser que c'est un phénomène qui est mondial.
Absolument.
Mondial et qui va continuer s'aggraver. S'aggraver pour tout un tas de raisons. Donc, si en plus vous ne remettez pas dans les rouages de l'économie mondiale de l'huile avec de l'immigration qui n'a toujours pas retrouvé, et loin de là, ses niveaux d'avant Covid, c'est 5% de la main-d'œuvre mondiale à peu près qui bouge chaque année, eh bien on aura des.
On se met des barrières tout seul. Éric Delannoy.
Il y a juste un point sur l'hôtellerie-restauration, c'est que je pense qu'en France, on considère que c'est une filière d'excellence. et qu'à ce titre-là, comme c'est une filière d'excellence, il y a de la formation, il y a des personnes qui y vont, contrairement à beaucoup d'autres métiers en tension. Donc on ne considère pas du tout que c'est des filières d'excellence. Et je pense qu'il est peut-être difficile d'imaginer que finalement cette filière d'excellence fonctionne comme les autres, c'est-à-dire avec beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément déclarées.
Il y a géomètre, hein, par exemple, dans la liste des métiers qui potentiellement rentrent dans les critères pour faire venir de la main-d'œuvre étrangère.
Je pense que aujourd'hui, je peux vous dire que pour les jeunes, c'est assez séduisant dans l'imaginaire de se dire qu'on va aller se former dans l'hôtellerie. Je pense que c'est pas du tout séduisant de dire qu'on va aller se former en tant que géomètre. C'est pas du tout séduisant de dire qu'on va aller en tant que maçon ou en tant que soudeur. Ce sont des métiers qui sont vécus comme étant soit difficiles, soit compliqués, soit on voit vraiment pas ce que
Donc vous dites qu'on n'a pas besoin de faire appel à l'aide.
C'est pas qu'on n'a pas besoin, c'est que je pense que dans la vision administrative qu'il peut y avoir aujourd'hui sur ceux qui font ces listes-là, ça passe au travers des mailles parce qu'on considère que c'est pas qu'on n'en a pas besoin, c'est qu'on considère qu'ils ne sont pas concernés. À partir du moment où on a des filières d'excellence, je suis pas sûr que vous ayez dans la liste, j'ai pas toute la liste en détail, beaucoup de métiers dont on considère dans l'imaginaire français que ce sont des filières d'excellence.
Ouais, enfin bon, même si c'est des bureaucrates, ils savent bien
ça veut dire qu'il faut être français pour bien faire la cuisine française.
Dans l'administration, ils savent bien que dans l'hôtellerie et restauration, on manque de main-d'œuvre, vous l'avez dit, il manque 200 000.
C'est pas que ça, personne ne veut encore à ce stade, en tous les cas, les jeunes ne veulent plus venir travailler dans ce secteur.
Ouais.
On peut les former rapidement, c'est peut-être considéré comme un métier d'excellence, et même dans les hôtels 5 étoiles, même dans ces très beaux endroits, on peine d'une manière incroyable à recruter, donc c'est une urgence absolue que de l'intégrer dans cette liste.
Il y a plein de métiers.
Je parle,
on est d'accord, hein, c'est que là on parle, Thierry Marx parle des gens qu'on ne voit jamais, ceux qui sont derrière, ceux dont on parle souvent, c'est les serveurs, dont on dit tous qu'ils ont des conditions de travail extrêmement compliquées, qu'ils sont payés au lance-pierre, qu'ils ont des horaires impossibles, etc. Il y a un test qui a été fait récemment dans le cadre de la préfiguration de France Travail, dans le nord de la France, notamment justement pour amener des jeunes chômeurs qui avaient envie de travailler chez des restaurateurs, chez des hôteliers. Pardon, mais les conditions qui étaient offertes à ces gens-là, elles n'étaient pas terribles, elles n'étaient pas dignes. Enfin, ça repose la question des conditions de travail.
J'entends le point. En tous les cas, moi, je parle de ce que je connais, en l'occurrence, les affaires dans lesquelles je suis. Et je peux vous garantir que même en payant très correctement les gens, en faisant un effort sur la qualité du temps de travail, sur les coupures et compagnie, c'est une souffrance absolue. Tout le monde a plus ou moins joué le jeu, notamment les grands groupes que vous connaissez de restauration parisienne à la mode, entre guillemets. Tout le monde a augmenté les salaires, tout le monde fait attention. Moi, dans mes affaires, les gens sont contents de travailler. Et je peux vous dire que malgré tout, ça peine. Alors, il faut aussi que ceux de 22, 23, 24, 25, ça revient au sujet du travail, se remettre de temps en temps, accepter de travailler avec un peu d'effort,
mais je pense que ça fera du bien à tout le monde. C'est pas que ça, parce que le problème, il est aussi quantitatif. Le problème, c'est pas seulement la désaffection pour ces métiers-là, le désintérêt pour ces métiers-là. Il faut rappeler qu'il n'y a jamais eu autant de gens qui ont travaillé dans l'hôtellerie restauration, quand vous prenez en nombre absolu. Donc, on peut pas dire qu'il y ait des gens qui soient partis. Le problème, c'est que vous avez aussi beaucoup moins de gens qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail. On est sur des rythmes de 70 000 par an, c'est deux fois moins que les rythmes qu'on avait il y a 15 ans.
Ça veut dire que le rapport de force entre employeur et employé va changer complètement?
De toutes les pénuries, c'est la pénurie de main-d'œuvre qui va durer de loin le plus longtemps. On est parti pour des années et des années de renversement du rapport de force entre les salariés et les employeurs. Donc ça va impliquer beaucoup de choses. Mais dans la restauration, je veux dire, prenez par rapport à il y a 5 ans, c'est le jour et la nuit. C'est-à-dire juste essayer de trouver un restaurant digne de ce nom ouvert à Paris le week-end. Bah vous verrez que c'est extrêmement compliqué parce que c'est des restos qui ferment le samedi et le dimanche parce que c'est les conditions d'exploitation ne sont pas remplies pour que ces restos soient ouverts le samedi et le dimanche.
C'est incroyable, je veux pas dire de bêtises sur le chiffre, mais il y avait un pourcentage de nombre de restaurants étoilés, donc nos plus grands chefs français, fermés plus de 3 jours par semaine tout l'été dernier par manque de main d'œuvre, et c'est pas les gens qui travaillent dans des conditions dramatiques.
Éric Delannoy.
Il y a aussi, je termine juste là-dessus, le fait d'oublier de dire que le Covid y a joué pour beaucoup. Il y a un côté structurel. Mais il y a aussi la conjoncture d'après Covid a rebattu énormément les cartes sur les envies et les motivations de travail.
Là, on parle de l'hôtellerie restauration parce que c'est Thierry Marx en a parlé ce matin, mais moi je suis encore plus effrayé, si je puis dire, par les problématiques qui sont autour de la santé, qui subissent les mêmes problèmes. Et aujourd'hui, les fermetures de lits, faut être clair, contrairement à ce que disent beaucoup de politiques, les fermetures de lits dans les hôpitaux ne sont pas dues à des restrictions budgétaires ou à des rationalisations budgétaires, mais par le fait qu'il y a du manque de personnel pour s'en occuper. Et ça devient très 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 inquiétant, que ce soit à tous les niveaux.
Alors, autre crise, on l'a rapidement évoqué, celle de l'énergie, des prix de l'énergie, notamment des hydrocarbures. Le pétrole, là, cet embargo sur le pétrole russe, en tout cas pour les Européens, et puis ces prix plafond instauré pour les pays tiers. Si c'est dépassé, ben, ils ne seront pas assurés, ils ne seront pas transportés par des compagnies européennes. Est-ce que ça peut fonctionner, Emmanuel ? Est-ce que c'est le bon dispositif ?
Alors, l'embargo... c'est classique, hein, on sait à peu près les effets que ça produit, et ce sont des effets qui sont réels, mais qui sont lents. Mais aujourd'hui, le pétrole qui est concerné, le pétrole qui vient par la mer, c'est 2/3 du pétrole qu'on achète. Donc oui, c'est important. Après, il y a effectivement ce mécanisme du G7 qui décide de plafonner à $60 le prix du pétrole acheté aux Russes. Alors il faut bien comprendre que évidemment ça nous concerne pas, ouais, puisque nous, le G7, c'est-à-dire en gros américains, canadiens et européens, on a déjà décrété l'embargo. Par contre, l'idée, c'est de dissuader les pays émergents, et notamment l'Inde et la Chine, d'acheter du pétrole russe pour limiter les recettes pétrolières russes, puisqu'il faut rappeler que les recettes pétrolières russes avec l'Europe, par exemple, c'est un peu plus de $60 milliards, c'est à peu près le budget de la défense russe. Et donc, voilà, et de les obliger à acheter en dessous de $60 par le biais, effectivement, des mécanismes assurance et fret qui sont assuré par des compagnies du G7. La réalité, c'est que quand vous plafonnez à $60 le baril, alors que le prix de vente du pétrole russe aujourd'hui, c'est 65, bon, c'est quand même un effet qui paraît relativement limité. Et puis, vous avez quand même derrière aussi la décision de l'OPEP ce week-end qui, face à ce mécanisme inconnu, parce que c'est vrai que c'est un mécanisme aux effets inconnus, qui décide, alors que les prix ont quand même perdu $30 en 3 mois, qui décide de ne pas resserrer finalement le robinet de la production. Bon, on se dit grosso modo, c'est vrai que ça laisse pas espérer beaucoup de baisse des prix du brut, mais ça ne laisse pas entrevoir non plus une soudaine tension sur les cours du pétrole.
C'est l'incertitude quand même, Éric Delannoy, là.
C'est l'incertitude. La seule chose qu'on sait, c'est que ça crée une contrainte sur le marché et que le marché n'aime pas les contraintes. Donc ça crée une double contrainte. La première, c'est que ce ne sont plus les problématiques de transport du pétrole ou d'extraction du pétrole qui font foi. L'OPEP aujourd'hui pouvait décider d'ouvrir ou de fermer les robinets. Ce sont toutes les infrastructures autour, c'est-à-dire les conditions de transport. Ça, c'est très nouveau. Donc ça crée une contrainte sur le fait qu'on soit capable de transporter du pétrole dans de bonnes conditions. Ça crée une contrainte sur le fait que les pays du G7 ont découvert une manière de réguler le pétrole, le cours du pétrole, ce qui n'existait pas avant. Et donc on ne sait pas. Moi, la conséquence et l'incertitude que je vois, c'est le fait qu'on ne sait pas du tout comment vont réagir l'OPEP et la Russie par rapport à un changement de la tectonique des plaques sur les décisions.
Un rapport de force un peu différent.
Un rapport de force qui est en train de se modifier, dont on ne sait pas du tout ce que ça va donner dans le temps.
Jean-Philippe Gartier.
Il faut juste rappeler aussi le but de cette manœuvre, c'est quand même d'assécher les finances des Russes. Dans le cadre du conflit ukrainien. Et comme dit Emmanuel à juste titre, de ce que je lisais ce matin, Zelensky disait, tout le monde avait l'air de dire qu'à $60, l'effet serait relativement limité. Donc soit il fallait carrément prendre un vrai risque et le mettre
à
40.
Les Ukrainiens demandaient 30. Hein.
30, je crois, mais je pense qu'il y avait peut-être un juste milieu. Je pense qu'à 60, ça paraît relativement limité, hormis tous les enjeux cités.
Bon, un mot des coupures d'énergie peut-être, parce que ça nous menace. On voit que l'EDF a vraiment du mal finalement à respecter les délais pour la rouverture des réacteurs.
Il y a déjà 40% PNF. De Français qui savent qu'ils ne seront pas coupés.
Ouais. Donc, ouais. Est-ce que vous savez, vous, Jean-Philippe Cartier, tel établissement, il va être coupé parce qu'il n'est pas sur le chemin d'un hôpital ?
On gère au jour le jour en entrepreneur, on verra bien ce qui se passe. Donc ça, c'est
vous
la première des choses.
Si vous ne savez pas si vous
En revanche, à Paris, il y a 20% seulement de la consommation qui sera potentiellement coupée.
Nous, on est à Paris, un peu partout en France, mais de manière plus globale, sur un certain nombre d'entreprises, et pas que des entreprises hôtelières ou restauration, et sur plein d'autres secteurs, on vit au jour le jour. Point 1, point 2. Je vous donne une donnée intéressante quand même, qu'on m'a donnée pas plus tard que la semaine dernière, sur le mois d'octobre, vous l'avez peut-être déjà dit, mais on a réduit, à température équivalente, on a réduit en France 8% de moins notre consommation énergétique au mois d'octobre, ce qui est quand même assez incroyable. On a consommé 8% de moins que d'habitude à périmètre constant, ce qui veut dire qu'on est capable de faire des efforts. Et je prends l'exemple d'un seul actif, mais je pense que ça intéressera certains. J'en parlais notamment à Bercy, qui m'a dit, c'est ce qu'on appelle clairement la croissance verte. Sur un des actifs, au mois d'octobre, on a fait plus 40% de chiffre d'affaires, on a réussi à réduire de 14% notre facture énergétique. Et c'est clairement de la croissance verte. C'est-à-dire que par un certain nombre d'actions importantes et pas forcément fastidieuses, mais qu'on peut faire comprendre aux clients, on est capable de faire changer, parce que c'est ça l'enjeu, c'est de faire changer des règles et de faire changer nos habitudes. Et ça, je trouve ça assez formidable. Et si tout le monde joue le jeu.
C'est quoi comme actif ?
C'est un actif, là, en l'occurrence, hôtelier avec.
Oui, c'est un hôtel.
Voilà. Je parle pas de l'industrie. Mais sur un actif
hôtelier.
Mais encore une fois, c'est. Ça en dit long, parce que c'est 8% d'économie d'énergie. Les actifs hôteliers au mois d'octobre. Ils concernent absolument tout le monde. Et c'est le rôle des entreprises. Et je pense qu'on peut appliquer encore plus et jouer le jeu.
Éric Delannoy.
Moi, j'aime beaucoup ce discours-là, parce que ça. Enfin, au-delà de. pardon, mais il y a beaucoup de, dans le pays, il y a beaucoup de gens qui chouinent. Enfin, c'est dur à dire, mais que ce soit les politiques, la tiers-mondisation, mais c'est absolument.
T'as vu que je chouine pas beaucoup, moi.
Mais, pardon?
Je chouine pas beaucoup.
Non, non, c'est ce que je voyais. Moi aussi, je suis entrepreneur et j'ai fait les mêmes constats. C'est que, en fait, on est en train de vivre un formidable exercice de résilience. Et ça, c'est très important dans un pays qui voit ses infrastructures fragiles. On sait que cette situation va durer. Tous les ans, on va avoir ce problème-là. Pourquoi? Parce que la consommation d'électricité va augmenter et que les infrastructures vont mettre du temps à s'habituer. Ouais.
Mais c'est bien d'être optimiste, Eric Delannoy. Mais vous avez raison. Vous parlez de tiers-mondisation.
Pas de tiers-mondisation.
Non, mais vous dites les gens qui chouinent, mais on a quand même eu des restrictions, le confinement, les matières premières qui augmentent.
Tous les discounters qui
sont
installés. Sauf qu'il y a quand même un sujet qu'on n'aborde jamais. On regarde toujours, finalement, les hamsters de la politique qui tournent dans leur roue pour produire des lois, des restrictions, des contraintes, etc. La réalité, c'est que, mais bon, ici on le montre tous les jours, c'est que les solutions, elles viennent du terrain, des entrepreneurs.
Oui.
Quand on a fait les BFM Awards, moi, j'avais cité avec entrepreneurs de la République, avec Leonidas Calogiropoulos, je lui dis, on va continuer à lister toutes les solutions des entreprises, etc. On est déjà avec toutes les solutions, les innovations, les inventions créées par les entreprises qui sont recensées et dont je vous parlerai un jour, parce qu'on va on a la liste et tout. On est quasiment à 2 centrales nucléaires. On est en économie à l'équivalent de quasiment 2 centrales nucléaires.
Éric Delannoy, vous laissez le mot de la fin à Éric Delannoy.
Non, mais ce qu'il faut, c'est continuer à s'habituer à anticiper ces problèmes-là. Ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est compliqué, mais il y a des vrais casse-têtes. Et c'est vrai, on ne parle jamais d'un vrai casse-tête qui n'est pas le fait que des gamins vont être peut-être 2 heures dans une semaine. Ouh là là, mon Dieu, quel casse-tête. Mais par contre, les passages à niveau. 15 000 passages à niveau. Ça, c'est un problème de vie ou de mort. Il faut réussir à l'anticiper de qu'est-ce que va donner une coupure d'électricité sur les passages à niveau qui ne se baisseraient plus quand le train passe. Enfin, je veux dire, il y en a 15 000, ils sont tous sur des technologies différentes, on ne sait pas comment les gérer. C'est un véritable exercice de résilience.
Voilà, un souffle d'optimisme a de nouveau soufflé sur ce plateau grâce à vous.
Remettez-nous des gardes-barrières.
Non, attendez, parce qu'il y a Nicolas Dos qui trépigne dans le couloir, hein, avec ses invités. Gilles Berset sera avec lui.
Denis Père et Mickaël Zemmour.
Voilà, on entend du bruit déjà, ils débattent déjà comme nous.